souvent suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 29 août 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Tout d'abord, les titres. En Libye, les dirigeants rivaux se rejettent la responsabilité des combats meurtriers à Tripoli. Au Tchad, élections houleuses des membres du Présidium au dialogue national. L'Angola a rendu dimanche un dernier hommage à l'ex-président José Eduardo dos Santos. À Tunis, le Japon s'engage pour la sécurité et le développement en Afrique. Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia. Au Pakistan, le bilan des inondations grimpe à 1061 morts. La nouvelle méga fusée de la NASA décolle ce lundi, direction la Lune. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les deux premiers ministres rivaux en Libye se sont rejetés dimanche la responsabilité des combats entre groupes armés dans la capitale Tripoli. Ces combats ont fait 32 morts et 159 blessés et ravivé le spectre de la guerre. Deux gouvernements se disputent le pouvoir, l'un basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Dbeiba, et l'autre par Fatih Bachaga, à la tête d'un exécutif installé à Sirte et soutenu par le camp du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Néanmoins, selon des médias locaux et des experts, c'est M. Bachaga, qui a tenté de déloger le gouvernement de son rival de Tripoli, mais a échoué. Il avait déjà essayé d'installer son gouvernement en mai à Tripoli, sans succès aussi. Au Tchad, le déroulement difficile du dialogue national inclusif et souverain, l'élection des membres du Présidium, l'instance en charge de diriger les travaux, s'est déroulée dans une ambiance houleuse. Gali Ngote Gata, candidat à la présidentielle de 2016, a été élu à la tête du Présidium, le point avec Yacouba Ouédraogo.
Pour Saleh Kebzabo, premier vice-président du comité d'organisation, Gali Ngote est l'homme de la situation, c'est un homme politique de grande expérience qui a déjà été ministre. Mais à l'annonce de la composition de cette instance, de nombreux délégués se sont levés et ont crié en signe de protestation. On nous a reproché de ne pas avoir intégré assez d'Arabisans dans la liste, a indiqué M. Kebzabo. Nous contestons la mise sur pied de ce bureau. Telles que les choses se passent, nous ne sommes pas partants et nous appelons Mahamat Idriss Déby pour remédier à cela, faute de quoi nous ne participerons pas à ce dialogue, a déclaré Gilbert Maoundonoji, membre de la société civile. Dans un communiqué, plusieurs petits partis politiques avaient menacé samedi de se retirer du dialogue, dénonçant ce qu'ils considèrent comme des manœuvres visant à saper la réussite de ce dialogue, tant entendu par le peuple tchadien. Les travaux dans les commissions, qui ont notamment pour thème les questions sociales, la paix et la réconciliation nationale, ou bien encore les libertés fondamentales, doivent débuter le 30 août. Le calendrier initial prévoit une cérémonie de clôture le 20 septembre.
L'Angola a rendu hier un dernier hommage à l'ex-président Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays pendant 38 ans jusqu'à son départ en 2017. Il a été enterré à l'issue de funérailles nationales en présence de chefs d'État de la sous-région Nanitalani.
À la tête du pays de 1979 à 2017, l'ancien chef d'État est mort en juillet à 79 ans à Barcelone en Espagne. Ses funérailles nationales se sont tenues à Luanda malgré l'opposition de certains de ses enfants. Plus d'un millier de personnes étaient à la cérémonie sur la place de la République, dans le centre de la capitale. Des drapeaux noirs étaient en berne et sur de grandes affiches, le message « Adieu, président ami ». Plusieurs chefs d'État et de gouvernement étaient présents, dont les présidents du Portugal, d'Afrique du Sud et de la RDC. Le président angolais, João Lourenço, 68 ans, ne s'est pas exprimé. Il a été désigné comme successeur pour Dos Santos aux élections de 2017. L'ancien président, né dans un bidonville de Luanda, a fait de l'Angola riche en ressources naturelles, l'un des premiers producteurs de pétrole du continent. Mais il est accusé par ses détracteurs d'avoir profité de cette manne pour enrichir sa famille, tandis que le pays demeura l'un des plus pauvres de la planète. Les funérailles de l'ancien président se sont tenues quelques jours après l'élection générale qui permettront de désigner le chef de l'État. Le MPLA au pouvoir est en tête des résultats préliminaires portant sur 97% des suffrages, mais l'opposition conteste.
Le Japon promet une étroite collaboration avec l'Afrique afin d'y promouvoir une économie plus résiliente. Tokyo dit aussi soutenir l'Afrique pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, promesse faite par le Premier ministre nippon lors du 8e sommet TICAD Afrique-Japon qui s'est tenu ce week-end à Tunis. Le point avec Abdourahman Dia.
Le Japon a annoncé l'octroi de 30 milliards de dollars de fonds privés et publics à l'Afrique sur 3 ans et a prévu un volet paix et sécurité pour la formation de policiers, l'aide à l'organisation d'élections et le contrôle des frontières. Par ailleurs, Fumio Kishida a jugé indispensable de remédier à ce qu'il considère comme étant une injustice historique. Le chef du gouvernement japonais a dit que son pays poussera pour que l'Afrique obtienne ce siège permanent au Conseil de sécurité quand il y sera un membre non permanent en 2023-2024. Le Japon entend créer un environnement où le peuple africain pourra vivre en paix et en sécurité afin de pouvoir se développer, a expliqué M. Kishida en visioconférence depuis Tokyo parce que positif au Covid-19. Cette question sécuritaire a été longuement développée par le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine Macky Sall. L'Afrique est le ventre mou du terrorisme international. Il faut une réponse globale, a-t-il lancé. Près de 20 chefs d'État et de gouvernement africains ont assisté à Tunis au 8e sommet du TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement africain, qui a rassemblé samedi et dimanche 5000 participants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux navires de guerre américains sont entrés en transit dans le détroit de Taïwan, a annoncé la marine américaine hier, une première depuis des manœuvres chinoises sans précédent près de l'île, en représailles à la visite à Taipei de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre américaine des représentants. Dans un communiqué, la US Navy a parlé d'un transit de routine dans des eaux où la liberté de navigation et de survol s'applique conformément aux normes internationales, ajoutant que l'armée américaine se réservait le droit d'opérer partout où le droit international le permet. C'est en Floride, plus précisément au Centre spatial Kennedy, que pour la première fois, la toute nouvelle méga-fusée de la NASA, la plus puissante du monde, sera lancée aujourd'hui à 12h30, temps universel, direction la Lune. Des milliers de visiteurs ne comptent pas rater l'événement. Eric Manirakiza.
Entre 100 000 et 200 000 visiteurs sont attendus pour le lancement de cette mission nommée Artemis One, qui va propulser une capsule à vide jusqu'à la Lune, afin de la tester pour de futurs astronautes. La nature historique du vol de lundi, le premier du programme américain de retour sur la Lune, a assurément éveillé l'intérêt du public, a déclaré Megan Happer de l'Office de tourisme de la côte spatiale de Floride. Des embouteillages sont attendus sur la route dès 4 heures du matin pour un lancement prévu à 8h33 heure locale, soit 12h33 en temps universel. Les hôtels sur la côte affichent complet depuis plusieurs semaines et les places de parking près des meilleurs points de vue sont limitées. Artemis est le nom du programme américain de retour sur la Lune, l'une des grandes priorités de la NASA pour les années à venir. Après le lancement de lundi, Artemis ambitionne d'envoyer sur la surface lunaire lors des prochaines missions la première femme et la première personne de couleur.
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a annoncé ce matin être en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, cible ces dernières semaines de frappes, faisant craindre le risque d'un accident majeur. Et au Pakistan, les inondations provoquées par les pluies de mousson débutées en juin ont fait au moins 1061 morts, selon le dernier bilan publié ce lundi par les autorités pakistanaises. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Cameroun, la circulaire budgétaire 2023 prescrit la généralisation de l'identifiant unique à toutes les transactions économiques qui impliquent l'inscription au registre des impôts. Jusqu'ici, l'identifiant unique n'était pas exigé pour les revendeuses informelles dans les marchés. Les vendeurs informels vont désormais rejoindre les contribuables, mais le président Paul Biya a prescrit la mise en place d'une fiscalité adaptée aux entrepreneurs individuels. Au Togo, EcoBank a lancé l'édition 2022 du FinTech Challenge, doté de 50 000 dollars. La compétition est ouverte aux entreprises et start-up innovantes qui proposent des solutions dans le domaine des technologies financières. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 septembre dans 33 pays africains. Les lauréats pourront lancer leurs produits dans le réseau de la banque. Au Ghana, la compagnie minière Galiano Gold a annoncé la fin du forage à la mine d'or Asanko pour se concentrer sur le gisement de crâne afin de mettre à jour l'estimation des ressources minérales du projet attendue au premier trimestre 2023. La mine d'Asanko a livré 92 353 onces au cours du premier semestre 2022. Sur l'année entière, Galiano vise une production d'or de 140 000 à 160 000 onces.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Élisée Compatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence avec du football. On jouait les matchs allés du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023.
Oui, une compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Et la belle opération pour le Ghana qui s'impose 2-0 devant le Nigeria dans la zone UFOA B. 1-0 pour le Togo face au Niger et le nul 0-0 entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dans la zone A de cette région, service minimum pour le Sénégal devant la Guinée. Victoire 2-1 du Mali en Sierra Leone. Le dernier match de cette zone se joue aujourd'hui en Guinée-Bissau qui reçoit la Mauritanie.
Au centre, la RDC aussi s'impose à l'extérieur.
Les Léopards ont ramené un précieux succès 2-1 de leur déplacement au Tchad. Même score en faveur de la Centrafrique qui recevait le Congo-Brazzaville. Et la Guinée équatoriale assure l'essentiel 1-0 à domicile face au Cameroun. À l'Est, belle performance du Soudan, vainqueur 4-1 au Djibouti. L'Ouganda s'impose aussi à l'extérieur 1-0 sur le terrain de la Tanzanie. Et puis au Sud, l'Angola se rassure en dominant 2-0 l'Afrique du Sud. Madagascar domine 1-0 le Botswana et le nul 1 partout entre le Malawi et le Mozambique.
Football toujours et début hier des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans de la zone A de l'UFOA.
Et début réussi pour le Cap Vert qui est venu à bout du Libéria score 2-1 dans ce groupe B. Le Sénégal aussi a bien démarré ses éliminatoires en dominant 3-1 la Guinée. Suite aujourd'hui de cette première journée dans la poule A avec des confrontations Mauritanie, Guinée-Bissau et Sierra Leone-Mali.
On enchaîne avec du basketball et fin hier de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023.
Tout à fait. Et la Côte d'Ivoire valide sa qualification après avoir dominé la poule E. 3 victoires en 3 matchs. La dernière 77-69 dans un match décisif contre le Cap Vert. Un 5e mondial décroché par les Ivoiriens. Dans une ambiance incroyable qui ne laisse pas indifférent le meneur de jeu Solou Diabaté.
Cette qualification, je pense que c'est mérité. On s'est bien battu à l'entraînement pendant 3 semaines. Et c'est la continuité de ce que les gars ils ont fait le mois dernier. Donc voilà, on est très content de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et en plus, en Côte d'Ivoire, devant notre public, c'est incroyable.
En revanche, il faut attendre la 5e et dernière fenêtre pour être fixé dans le groupe F, où le Sénégal s'est repris en alliant 3 victoires. Le Soudan du Sud, vainqueur de l'Égypte, garde tout de même la tête du groupe.
Handball pour finir avec la CAN des moins de 20 ans chez les hommes à Kigali au Rwanda.
Exactement, Idrissa, avec le sacre de l'Égypte qui a battu en finale l'Algérie 35-15. La Tunisie termine troisième après son succès 24-22 sur l'Angola. À noter que ces quatre sélections représenteront le continent à la prochaine Coupe du Monde 2023 en Allemagne et en Grèce.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, après avoir adopté le règlement intérieur sous fond de contestation, les débats de samedi et de dimanche étaient consacrés au mode de désignation des 21 membres du bureau du Présidium. C'est donc Gali Ngote Gata, candidat à la présidentielle de 2016, qui a été élu à la tête de ce présidium. Auparavant, le CODNI, le comité d'organisation de ce dialogue, avait proposé aux participants de procéder au vote à main levée pour élire les membres du présidium en cas de non-consensus. Une proposition qui ne faisait pas l'unanimité dans la salle, nous a dit André Kotmajingar, notre correspondant à N'Djamena.
Pour beaucoup de participants, la composition du Présidium est un indicateur très important pour l'orientation des débats et la souveraineté de ses assises. Et donc, un Présidium majoritairement acquis à un bord politique sera forcément influencé puisque dans la salle, plus de 80% des participants sont issus d'un seul camp. C'est pourquoi, en cas de non-consensus dans la mise en place du Présidium, il propose un vote à bulletin secret.
Un vote à main levée, ce n'est pas un vote. Mais c'est une explication politique qui est donnée à ce vote-là. Alors, si c'était une habitude, laissez tomber.
Laissez nos calculs malsains là. Donc, vous voulez qu'on se boxe dans la salle? Mais nous sommes prêts à le faire.
On sait où est-ce qu'on veut nous conduire. Ne nous poussez pas les gens à quitter la salle.
Certains participants menacent déjà de suspendre leur participation à ce dialogue. Ils estiment que les membres du CODNI, le comité d'organisation, ont ficelé les choses à l'avance.
Le CODNI semble dévoiler clairement son visage partial en s'imposant au directoire de ses assises.
Pour le vice-président du CODNI, Saleh Kebzabo, ces accusations sont infondées et basées sur aucune preuve.
Nous avons absolument rien ficelé. C'est de la mauvaise foi. Je parle ici au nom des membres du CODNI. C'est une insulte que moi, je n'accepterai pas.
En marge des travaux, le porte-parole du gouvernement Abdramane Koulamala a fait une communication ce week-end. Communication axée sur l'incursion jeudi dernier à Tibesti dans le territoire tchadien d'une vingtaine de véhicules du groupe rebelle CCMSR, non signataire de l'accord de Doha. Cette incursion, dit-il, n'a pas donné lieu à aucun accrochage avec les forces gouvernementales alors que les rebelles affirment dans une vidéo diffusée le 27 août avoir capturé 5 soldats et récupérer quelques engins de guerre.
Ces colonnes avaient dans un premier temps intercepté deux véhicules qui sont des véhicules porteurs de citernes d'eau. On n'a pas voulu faire des accrochages. On les a accompagnés et ils sont sortis du territoire tchadien et que la situation est totalement calme au niveau du Tibesti.
Si le FACT et les transformateurs ne participent pas à cette messe politique, l'on ne peut parler d'un dialogue inclusif, estime Dr Succès Masra. Il menace toujours de gérer la rue.
Nous avons l'obligation de trouver un point d'entente. Et si nous ne trouvons pas un point d'entente, à la fin, il y aura deux chars. Et si certains pensent que, parce qu'ils sont encore armés, ils ont le droit de diriger les Tchadiens jusqu'au jour où ils auront envie de laisser le pouvoir aux Tchadiens, alors à ce moment-là, ils auront en face d'eux le plus grand groupe rebelle. Et le plus grand groupe rebelle, c'est bien le peuple tchadien, oui ou non?
C'est dans ces conditions de méfiance que le CODNI annonce la mise en place du Présidium par consensus.
Président Gali Ngote Gata.
Je vais remettre au Président.
Saleh Kebzabo tente en vain de calmer la salle.
S'il vous plaît, le Président veut vous parler. S'il vous plaît.
La tension est vive et le Président du CODNI, Hacheb Ibni Omar, suspend la séance.
La séance est suspendue, reprise mardi à 10h.
André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, une délégation du gouvernement s'est rendue en fin de semaine à Kouamout, dans la province de Maïndombe, où sévit un conflit communautaire depuis un mois. Conduite par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, la délégation a enregistré plusieurs violations des droits humains et une situation humanitaire inquiétante à Kwamut et ses environs. Elle a réitéré son appel au calme et au cessez-le-feu. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati-Kataï.
C'est à Kwamut, bastion du conflit, que la délégation gouvernementale a eu des entretiens avec les forces vives locales ainsi que les autorités provinciales du Maïndombé. De deux peuples en conflit, seuls les Bateke ont répondu présents à l'invitation des membres du gouvernement. Les Bayaka continuent à se cacher en brousse avec leurs milices. Sur place, la délégation a enregistré plusieurs violations des droits humains et une situation humanitaire catastrophique. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
Il y a eu des atrocités qui font qu'au jour d'aujourd'hui, on a un bilan un peu plus de 20 morts dans l'ensemble du territoire, sinon de la province. Mais pour avoir enregistré autant de plaintes contre les services et les autorités du territoire de Kwamut en particulier, j'ai décidé de suspendre l'administrateur du territoire de Kwamut à cause de son comportement peu responsable.
Tout en déplorant l'absence de l'autre partie en conflit, la société civile de Kwamut salue l'appel au calme et à la paix lancé par le membre du gouvernement. Mais elle réclame que la forêt soit pacifiée afin de permettre la reprise d'activités champêtres.
Ici à Kwamut, il n'y a pas assez de sociétés, il n'y a qu'un. L'activité agricole qui bat record. Tellement que la rentrée scolaire s'annonce, il faut qu'il rentre et que le calme soit dans la forêt pour qu'eux puissent faire les travaux champêtres. Ils ont demandé à ce que le calme soit rétabli dans la forêt pour la continuité de leurs activités.
Cette demande a été entendue par le ministre de l'Intérieur. Il a appelé les Bayaka et leurs milices qui écument encore la forêt à déposer les armes et à se rendre aux autorités locales. Pour raison d'équité, une autre rencontre avec les communautés Bayaka est prévue, affirme-t-on du côté gouvernemental. Dans l'entretemps, l'armée a été mobilisée pour remettre de l'ordre dans la zone. Une action appréciée par les députés Willy Bolio qui avait lancé l'alerte sur ces conflits. Mais il estime que la vraie paix passera par la justice.
Ce qui peut être très utile, c'est le fait qu'on soit à la recherche des coupables. Si on a les coupables, qu'ils soient traduits en justice, ne fût-ce que ça peut apaiser les populations victimes. Et à ce moment-là, après cette étape, on peut passer à l'étape de sensibilisation pour permettre à ce que ceux qui n'ont pas commis de faute n'aient pas de problème à cohabiter avec les autres.
Après la visite de plusieurs sites déplacés à Kwamut et Bolobo, les cinq membres du gouvernement ont annoncé qu'une aide humanitaire sera acheminée sur place de ce lundi. Les blessés sont déjà pris en charge dans des structures sanitaires locales. Depuis une semaine, un calme apparent règne à Kwamut et ses environs. Alex Kati-Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Au Togo, la préservation et la conservation des forêts classées et sacrées sont désormais intégrées dans les habitudes des populations. Dans la localité de Godjémé, dans le sud-est du pays, les habitants sont aux petits soins de leurs forêts sacrées à haute biodiversité. Reportage sur place de Kossi Wousou, notre correspondant au Togo.
À la lisière de la forêt sacrée de Godjégodja, non loin du village de Godjémé, dans la préfecture de Yoto, à une centaine de kilomètres de la capitale Lomé, la verdure s'étend à perte de vue, procurant une sensation d'un bien-être immédiat aux visiteurs. Koumedina Kofi, le prêtre traditionnel, veille au grain.
La forêt sacrée a été mise en place dès que nos parents sont venus de Montchin. La superficie de la forêt était de 93 hectares. Mais nos frères qui sont rentrés dedans pour faire le chat, donc ça a été réduit à 53 hectares. Nous avons reboisé plus de 30 hectares. Tout le monde a maintenant adhéré à cette forêt parce qu'ils savent maintenant que c'est une patrimoine qu'ils devaient garder pour que, à long terme, ça génère des revenus.
Des plantes médicinales et une espèce rare de singe à poitrine rouge sont, entre autres, des espèces florales et fauniques qui s'y trouvent. Et pour que les erreurs du passé ne se répètent plus, des éco-gardes assurent la surveillance de la forêt sous la supervision du capitaine Douti Patekoum, directeur préfectoral de l'environnement et des ressources forestières.
Les éco-gardes, ce sont des jeunes hommes qui
qui, par leur aptitude, facilitent la surveillance par les patrouilles organisées au sein et autour de la forêt sacrée. Parce que il y a à surveiller cette forêt contre le braconnage et contre les coupes illicites.
Des activités génératrices de revenus sont initiées par le gouvernement, appuyées par des partenaires techniques et financiers pour permettre aux populations de pérenniser la protection de la forêt sacrée Gaudjin-Gaudjin. Goli Abla est la trésorière de l'association de conservation et de promotion culturelle.
C'est la première année de maraîchage et avoir l'allure, nous croyons que c'est une bonne chose. Nous cultivons des oignons, des choux, des gombos, du piment. Cependant, on a besoin de plus de surface cultivable pour augmenter nos productions et surtout, il nous faut un marché ici afin que d'autres clients viennent chercher nos produits. Et ça nous aidera beaucoup.
Gaoun Kwami, un natif du village de Gojeme, craint que tous ses efforts pour développer ses activités génératrices de revenus et le tourisme dans la localité risquent d'être vains à cause de l'enclavement de la localité.
Notre village Gojeme est vraiment enclavé. Lorsque le touriste il veut venir voir la forêt sacrée de Gojeme, il n'y a pas la voie. Ça peut même décourager les gens et il peut même faire demi-tour.
Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la 8e édition de l'Abada Festival s'est achevée ce samedi à Etouboué, dans le département d'Adjaké, dans le sud-est du pays, creuset de valorisation et de rencontre des traditions du peuple Bétibé, plus connu sous le nom des Eoutilé, la procession du tam-tam sacré vieux de plus de 200 ans donne toute sa particularité à ce festival qui a connu plus de 5000 participants. Un reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Boise.
Bienvenue à Etouboué, siège du royaume Bétibé dans la région du sud Komoué, sur les bords de la lagune Abi. C'est ici, dans ce village de pêcheurs, que se déroule chaque année l'Abada Festival.
L'Abada Festival est l'occasion pour réunir tous ces enfants. C'est la fête annuelle du peuple Bétibé.
Le grand tambour est gardé dans un lieu tenu secret par les initiés. Parés de tous les attributs identitaires, les initiés du bois sacré, des hommes, femmes, jeunes et enfants, habillés en tenue traditionnelle, défilent en toute solennité. Moment de réjouissance, la sortie de l'Abada. Le grand tambour sacré, vieux de 200 ans, apparaissant sur la place publique, constitue tout un symbole pour cette cérémonie. Transporté par un jeune du village, le guerrier et ses purificateurs avancent tout doucement en évitant les obstacles et la procession à travers tout le village peut maintenant commencer. Cette année, l'Abada Festival va à la rencontre des autres peuples. René Adjé, commissaire général du festival.
Notre objectif, c'est de sortir pour s'ouvrir au monde international.
En témoigne l'entrée du tout premier initié de race blanche, Thomas Pinko, baptisé Oblob Bataillon, crée l'attraction au cours de la procession.
Pour moi, c'est très important que tout le monde en Espagne connaît la tradition des Etiowé.
Sortie du bois sacré en entonnant en duo l'hymne des initiés est la preuve qu'il fait maintenant partie des peuples Bétibé. Ce festival, c'est aussi le brassage des cultures. Le Kété et le Fatoué accompagnent Sa Majesté le roi des Bétibé à Bakwaba Mkwanji II. Aux côtés du souverain, le roi des Essouma, Aoulaye Fion Mansou V, un symbole de fraternité, et ce qui est apprécié par l'un des notables Achans, Pierre Dogon.
Il y a une certaine entente qui se vit au sein de ces différents villages-là.
Président du conseil régional du sud du Komoué et jeune Aka Awele, parrain du festival.
Abada Festival nous plonge dans l'identité unique des Bétibé. Il nous revient de la préserver précieusement.
Le maire de la ville d'Adiaké, Yacouba Yensie, abonde dans le même sens.
Nous célébrons les fiertés Bétibé dont la culture est un objectif pour nous tous.
et plus de 5000 festivaliers ont pu découvrir le potentiel culturel des Ewoutilés.
Un festival riche en couleurs. Et à travers ça, j'ai vu pratiquement ma jeunesse à Abidre 2.
J'ai trop aimé.
Nous, on n'a pas l'habitude de voir ça en Europe. Les personnes qui sont transcendées par l'événement et par les esprits surtout.
La Bada Festival représente le plus grand rassemblement des Bétibé en Côte d'Ivoire. Delphine Bowise, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram.